Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent 4 émissions sur Bernard Lazare et le monde protestant. Ce Nîmois, libertaire, eut une carrière nationale, voire internationale, singulière. Nous le resituerons dans son époque en parallèle avec quelques protestants qui, comme lui, participèrent à la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, de la bourgeoisie nîmoise au milieu libertaire parisien. Nous accompagnerons Aristide Bruand et son Chant des Canuts, qui date de 1894, puis Léo Ferré avec ses anarchistes de 1969. Présidé par David Storper, le collectif Histoire et Mémoire souhaite la reconstruction à l'identique du monument en hommage à Bernard Lazare dans les jardins de la Fontaine pour le 4 juin 2025, jour du 160e anniversaire de sa naissance. Ce projet est soutenu par de nombreuses personnalités, dont Carole Sandrel, petite-nièce de Lazare, Charles, Michel Dreyfus et Yves Dutheil, petit-neveu de Dreyfus, mais aussi Martine Leblon-Zola, le grand rabbin Haïm Corsia, les anciens ministres Georgina Dufoy et Michel Vauzel, et aussi Edgar Morin, Laclary, Philippe Auriol, Patrick Cabanel ou Simon Casas. Le collectif ayant proposé à l'Église protestante unie de Nîmes de participer à ce projet et à sa communication dans nos églises, c'est une reconnaissance et avec reconnaissance que nous consacrerons plusieurs émissions à ce Nîmois précurseur, on dirait maintenant lanceur d'alerte.
Un personnage intéressant, mais aussi complexe et en constante recherche tout au long de sa vie. Il nous a semblé opportun de replacer son évolution dans le contexte de l'époque et d'évoquer quelques personnages protestants qui, avec lui, permirent la réhabilitation bien tardive du capitaine Dreyfus, car le phénomène minoritaire joua probablement un rôle non négligeable dans cette complicité de fait.
Pour commencer, rappelons qu'un premier monument avait été érigé en 1908 par le Nîmois Max Raffel, assisté des sculpteurs renommés Hippolyte Lefebvre et Roger Bloch, qui fut tué à Auschwitz en 1942. Et cette édification provoqua aussitôt une manifestation anti-Dreyfusarde. L'œuvre sera régulièrement vandalisée par les ligues nationalistes et même mutilée par les camelots du roi qui cassèrent le nez le 14 juillet 1809 pour l'offrir à Charles Maurras comme presse-papier.
En 1942, avant même l'occupation allemande, le monument fut décellé par le gouvernement de Vichy et ses éléments stockés dans les réserves du musée du Vieux-Nîmes. À la Libération, ceux-ci furent finalement utilisés dans la construction du monument pyramidal aux héros et martyrs du combat pour la liberté, en 1949, boulevard Jean Jaurès.
Rappelons également que Bernard Lazare est en réalité le pseudonyme choisi par Lazare Marcus Manassé Bernard lorsqu'il deviendra journaliste et écrivain. Il est né à Nîmes le 14 juin 1865 dans une famille de tradition judéo-occitane peu croyante, attaché aux fêtes traditionnelles, mais surtout aux valeurs laïques et idéaux inspirées par la Révolution française. Patronyme très courant en France, il y a au XVIIIe siècle des Bernards, à Mende ou autour de Cavaillon, possiblement à l'origine de notre famille nîmoise.
Lazare Bernard est l'aîné des 4 fils de Jonas Bernard, nîmois, négociant de vêtements de la rue des Marchands, puis du boulevard Victor Hugo. Sa mère, née Douce Noémie Rouget, est issue d'une famille bourgeoise chrétienne bien connue à Toulouse, où elle avait introduit le métier jacquard et créé une des premières manufactures de draperies et passementeries. À la naissance de Lazare, la famille loge dans un appartement aménagé dans l'hôtel Boudon, au 4 de la rue de la Petite Fusterie, actuelle rue de Bernis.
Dans ces années 1870, Nîmes est travaillée par des conflits opposant d'un côté les bonapartistes et monarchistes, souvent catholiques, qui tiennent la mairie, et de l'autre les républicains, majoritairement protestants ou juifs, qui peinent à implanter la Troisième République dans la ville. Ce ne sera fait qu'en 1881, avec l'arrivée à la mairie d'Ali Margarot. De même, les premières organisations ouvrières se positionnent difficilement entre le syndicalisme professionnel, toujours interdit par la loi Le Chapelier, et les mutuelles de secours, tolérées. En 1880, certaines associations fraternelles sont pourtant reconnues d'utilité publique, telles celles des employés et ouvriers des chemins de fer. Elles ne seront reconnues syndicats professionnels qu'en mars 1884 par la loi Waldeck-Rousseau.
Nous avons vu dans une précédente émission qu'Auguste Fabre avait fondé en 1876 une chambrée populaire à l'angle de la rue Neuve et de la ruelle des Saintes-Maries, actuelle rue Jamet et Godin, en reprenant le nom de Solidarité d'une première coopérative de 1868. Dans cette société d'éducation populaire, inspirée de Fourier, une quinzaine d'ouvriers discutent des coopératives alsaciennes et lyonnaises et de grandes causes sociales. Édouard de Boive en décrit l'atmosphère studieuse.
Les membres les plus instruits apprendraient à lire et à écrire aux plus ignorants. 4 soirées de la semaine étaient réservées à cette instruction. Le samedi était consacré à l'étude des questions sociales sous la direction d'un citoyen dévoué, Auguste Fabre, mécanicien, lecteur assidu de Fourier et de Saint-Simon. Les membres de la Solidarité étaient des ouvriers et leur seule pensée était de rechercher les meilleurs moyens d'améliorer la condition sociale des travailleurs. Fallait-il employer les moyens révolutionnaires ou les moyens pacifiques ? Lecture et faits divers servaient d'aliment à la discussion et cette instruction mutuelle obligeait les membres de la chambrée à raisonner.
C'est dans ce même local qu'en 1878, parallèlement à l'enseignement populaire, Fabre fonde une coopérative de consommateurs d'une trentaine de membres. Tandis qu'en 1882, le nouveau maire, Margarot, commence son combat laïque. Fabre est un des fondateurs de la Société du Sou des écoles laïques pour fournir du matériel scolaire et initier des cours du soir pour jeunes travailleurs. Il rejoint très tôt la Ligue de l'enseignement, fondée par Jean Massé, et fait partie du cercle nîmois de la Ligue de l'enseignement.
Pendant ce temps, le jeune Lazare Bernard a obtenu à Nîmes un baccalauréat en sciences, mais se passionnant surtout pour la littérature, il entre en 1883 à la Société littéraire et artistique de Nîmes. Il a pour ami Ephraim Michael, un jeune poète juif toulousain, monté à Paris avec sa famille en 1880 pour suivre ses études au lycée Condorcet. Lycée libéral, prestigieux, où enseigne Stéphane Mallarmé et fréquenté par la bonne bourgeoisie républicaine, juive ou protestante. Ephraim participe bientôt au Mardi de Mallarmé, rue de Rome, au cours desquels le professeur reçoit des hommes de lettres et des artistes tels Manet. Parmi ces mardistes, les poètes avant-gardistes Henri de Régnier, Pierre Quillard, René Guil, mais aussi Paul Valéry ou Zola. Correspondant avec Lazare, Ephraim lui vante toutes ses rencontres passionnantes, si bien qu'en octobre 1886, à 21 ans, Lazare quitte Nîmes pour Paris. Le faisant passer pour son cousin, son ami l'introduit dans ce milieu littéraire poétique du groupe dit de Fontane, qui se scindra vers 1888, la jeune génération abandonnant le symbolisme pour un matérialisme teinté de mysticisme.
Cette même année 1886, tandis que de Boive se lance dans l'aventure coopérative, Auguste Fabre invite Gide, son ancien ami usécien, a donné une conférence au Théâtre de Nîmes le 8 avril sur les prophéties de Fourier, qui remporte un grand succès. Mais il participe surtout à la fondation en mars 1887 d'une bourse du travail nîmoise, la deuxième de France après Paris, réclamée au maire dès la reconnaissance légale des syndicats. Le typographe Claude Gignoux, jeune militant syndicaliste nîmois de 16 ans, loue un petit local au numéro 7 rue Saint-Paul, qui est actuellement à la rue Benoît-Malon, et précise les buts visés.
Déterminer les conditions de travail les mieux adaptées aux besoins de la nature humaine. Associer les salariés en vue d'acquérir la force nécessaire pour établir ces conditions quand elles seront reconnues applicables. Tel est le but que les ouvriers désirent atteindre par la Bourse du Travail. Bientôt, cette bourse accueille la Société d'éducation populaire, première université populaire de France, transformée en université populaire de la Bourse du Travail.
Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
Mais 1886 est surtout l'année de la parution, avec l'aide financière d'Alphonse Daudet, d'un pamphlet antisémite d'une rare violence diffusée à 150 000 exemplaires, La France juive d'Édouard Drumont, un catholique parisien monarchiste se disant anarchiste et lui aussi ancien de Condorcet, mais dans les années 1860. Ce succès littéraire puise à l'ensemble des courants antisémites de l'époque, depuis celui anticapitaliste de la gauche socialiste à celui traditionnel catholique, selon le système du bouc émissaire qu'il focalise sur les juifs, français ou non. Notons que l'antisémitisme sera surtout un phénomène parisien, car sur les 70 000 juifs estimés alors en France, 45 000 sont dans la région parisienne, mais on le retrouve aussi en Algérie où vivent 40 000 juifs. Pourquoi cette bouffée raciste à cette époque ?
Eh bien, tout d'abord, le sentiment d'humiliation et la volonté de revanche après le désastre de 1871. Puis, plusieurs facteurs sociopolitiques et économiques. La droite politique, qui refusait toujours la République, est alors en pleine restructuration après l'échec du boulangisme. Elle comprend qu'elle doit s'accommoder et faire alliance avec les républicains modérés, effrayés comme elle par la montée en puissance du mouvement ouvrier, le sentiment d'insécurité lié aux grèves et aux attentats anarchistes. Une nouvelle génération de conservateurs, plus ou moins républicains, se regroupent donc contre les progressistes qualifiés de francs-maçons, voire protestants, et bientôt de juifs. Une importante diaspora askénaze, confondue volontiers avec des Allemands, affluait alors dans les grandes villes françaises ou anglaises suite aux pogroms encouragés par les empires russes, ottomans ou austro-hongrois dans les Balkans ou en Pologne.
D'autre part, on sait que depuis le 29 juillet 1881, l'imprimerie et la librairie sont libres. Une grande presse populiste naît alors, opposant un nationalisme revanchard à l'universalisme marxiste. Elle pratique volontiers les effets d'annonce sans fondement véritable, terrorisme non violent. On y critique les Rothschild, apatrides et un supposé complot juif anti-français, rendu responsable du krach de l'Union Générale en 1882, mélangeant pêle-mêle espionnage et scandale politico-financier. L'affaire des décorations de 1887, puis en 1892, les malversations financières autour du canal de Panama mettant en cause le baron Jacques de Reynard, un banquier d'origine juive allemande. Comme il est l'oncle de Joseph Reynard, l'ancien chef de cabinet de Gambetta, cela permet d'éclabousser au passage le journal de Georges Clémenceau, La Justice. Tant de haine ne tardera pas à faire monter une jeune génération d'anarchistes violents, partisans du terrorisme.
En face, avec Jules Ferry, le camp républicain tente de rassembler la bourgeoisie républicaine et le monde ouvrier non marxiste dans un élan colonialiste pour une grande France, fière de ses valeurs démocratiques. Une législation sociale se met péniblement en place et le mouvement coopératif se développe parallèlement et parfois en opposition au développement syndical. Cependant, comme pour la droite, cette notion de creuset national d'intégration aboutit surtout à une volonté d'assimilation des minorités. Suppression des langues régionales, refus d'assouplir le contrôle concordataire, soumission des populations colonisées. On dénonce tout ce qui semble s'y opposer comme étranger, ennemi intérieur dangereux, qu'il s'agisse des émigrés récents, puis bientôt de tous ceux installés en France depuis de nombreuses années. Italiens, Polonais, patronymes germaniques, qu'ils soient protestants, juifs ou même alsaciens.
La notion de race française se développe à gauche comme à droite, les uns sur des critères idéologiques, les autres ethniques, cautionnés par les toutes nouvelles découvertes biologiques et génétiques dévoyées dans ce sens. Comme dans les grands empires, un consensus nationaliste se construit donc sur le rejet de l'étranger.
C'est dans cette ambivalence haineuse que Lazare s'inscrit à l'école pratique des hautes études de Paris, où il choisit les cours de l'abbé Louis Duchesne, professeur d'histoire de l'Église à l'Institut catholique de Paris. Ce prêtre, dont les écrits furent mis à l'index comme plus historien que théologique, lui inculque rigueur et goût du fait exact, avec, s'il le faut, contestation de faits prétendument établis. À l'issue de l'année universitaire 1887-88, Lazare remet un mémoire consacré à la législation conciliaire relative aux Juifs.
En avril 1887, Auguste Fabre soutient, lui, l'initiative de 6 étudiants protestants nîmois. Influencé par le normalien Ruyssen et avec l'aide du pasteur de Nîmes Charles Babu, il fonde à Nîmes l'Association des Jeunes Amis de la Paix. Ce mouvement pacifiste internationaliste jouera un rôle important.
Pour autant, notre fils de bonne famille provinciale suit toujours le mouvement de bohème doré des mardis de Mallarmé. Et sous le nom de Bernard Lazare, il devient journaliste et critique littéraire dans plusieurs journaux républicains modérés, voire conservateurs, tels l'Événement, le journal L'Écho de Paris, Le Nouveau Siècle de Georges Valois, Le Figaro, mais aussi Paris, un journal du soir. En 1888, il écrit avec Ephraim Michael « La fiancée de Corinthe », une légende dramatique en trois actes. Mais deux ans plus tard, Ephraim meurt de tuberculose. Et ce deuil marque tragiquement Lazare dont l'orientation politique va évoluer au sein de cette bohème littéraire, flirtant volontiers avec un anarchisme intellectuel non violent.
Depuis la mort de Bakounine en 1876, c'est Élisée Reclus qui, exilée successivement en 1851 et 1871, a repris l'étendard de cette anarchie intellectuelle. Adepte de Blanqui, ce fils de pasteur voit dans celle-ci la plus haute expression de l'ordre. Refusant l'action directe, il croit en une république universelle qui abolit frontières et États. Communiste libertaire en 1880 avec le journal La Révolte, il doit se réfugier en 1893 en Belgique, où il fonde avec succès l'Université Nouvelle. Bernard Lazare sera bientôt son adepte.
Nous voici arrivés dans les dernières années de 1880. De nombreux journaux libertaires apparaissent alors. Le Libertaire de Sébastien Faure, L'Attaque, Le Père Pénard d'Émile Pouget, La Revue Anarchiste de Charles Châtel et L'En dehors de Zo Daxa, où écrit Octave Mirbeau. Proche de cette mouvance, Bernard Lazare participe maintenant à plusieurs revues culturelles d'avant-garde, comme la Revue Blanche.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et elle a peint sur sang et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y en a pas un sur 100 et que pourtant ils existent. Et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.